Bonjour et bienvenue à tous, on espère que vous allez bien. Nous ça va super. Vous êtes bien en direct sur Globule Radio 90.5 FM, une radio locale de la vallée.
Globule Radio diffuse depuis Chamonix. Et maintenant, c'est parti pour la présentation. Nous sommes aujourd'hui en direct avec Jeanne, Raphaël, Agathe et moi. Des jeunes de 14 ans lancés dans ce projet de radio. Par nos professeurs, Madame Mère, prof de français et Madame Martin, prof documentaliste.
Nous avons entamé ce projet au début de notre année scolaire 2022-2023 dans le but d'animer une émission de radio d'environ une heure. Notre thème principal est la planète Terre. Il sera abordé via des reportages et des interviews réalisées par chaque membre de l'équipe.
Pour réécouter toutes les émissions, rendez-vous sur globule.chamonix.radio.
Je vais maintenant passer la parole à Raphaël, juste après Blinding Light de The Weeknd.
Bonjour, je m'appelle Raphaël, je fais du vélo et du ski en compétition et je suis accompagné de mes camarades de 4e A et je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 13 ans et je suis passionnée par la musique et la danse.
Hello, moi c'est Agathe, j'adore le dessin, le sport, la lecture et mes amis. J'aime faire plaisir aux gens, cuisiner et je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle James, j'ai 13 ans, je suis passionné de ski que je pratique en compétition, de drone et d'aéronautique. Et tout de suite, on retrouve Raphaël qui va nous parler d'une association de vélo basée à Chamonix. Alors Raphaël, dis-nous ce que sont les Ouche Bike Crew.
Vous avez peut-être entendu parler, mais il y a bientôt 3 ans, dans la vallée de Chamonix, un groupe de vététistes a fondé une association nommée les Ouche Bike Crew. N'importe qui peut s'y inscrire et aider à la construction de descente et à la progression du vélo de descente dans la vallée de Chamonix.
Mais dis-moi, ce projet a-t-il du succès ?
Oui, ce projet a réussi à attirer l'attention de nombreuses personnes et a permis à plus de gens de se mettre au vélo.
Qu'est-ce qui a changé depuis la création de cette association ?
On observe beaucoup de progrès, principalement avec les magasins de sport qui commencent à donner de plus en plus la possibilité de louer du matériel de vélo et ainsi permettre aux vacanciers d'essayer de nouveaux sports. On voit aussi une augmentation des chemins de vélo dans la vallée de Chamonix.
Qui construit ces chemins de vélo ?
Ce sont principalement les Zouche Bike Crew et les pisteurs qui travaillent dessus, mais de nombreuses autres personnes en construisent. D'ailleurs, il y a même des groupes d'adolescents qui en construisent.
Ils doivent être vraiment passionnés par ce sport pour prendre le temps de construire ceci.
Oui, cela prend beaucoup de temps, mais ça en vaut vraiment la peine.
Et ces adolescents apprennent-ils à faire du vélo dans un club, par exemple ?
Pas tous, mais ils vont souvent dans le club de vélo de Chamonix, dans lequel on peut s'inscrire et avoir des entraînements avec des entraîneurs et participer à des courses dans toutes les disciplines du VTT. C'est mon cas, par exemple. Je fais partie de ce club depuis bientôt 4 ans.
Vous vous amusez bien dans ce club ?
Oui, c'est amusant, car on découvre de nouveaux chemins de vélo et de nouvelles personnes.
Et si on veut tester les pistes, où pouvons-nous aller ?
Vous avez la station des Zouches, où vous avez la remontée mécanique des Prarians. Il y a aussi au Tour, au Brévent et à la Flégère. Et pour ceux d'entre vous qui aiment la montée, vous pouvez trouver de nombreux chemins tracés par les locaux de la vallée.
Merci beaucoup, Raphaël.
Merci à vous. Et si vous êtes intrigué par le monde du VTT, je vous invite à regarder le site des Zouches Bike Crew. Et tout de suite, on retrouve Jeanne pour sa chronique.
Bonjour à tous, merci Raphaël. Donc oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sport de glisse qui se pratique sur la neige, le ski de fond. Ce sport apparaît dans l'Antiquité, 1000 ans avant Jésus-Christ. Il est originaire des pays scandinaves, plus précisément où se situe aujourd'hui la Norvège. Le ski de fond est une activité sportive qui demande beaucoup d'équilibre et de cardio. En revanche, il implique des mouvements doux et ne traumatise pas les articulations, ce qui est plutôt important pour le corps. De plus, il peut se pratiquer soit en famille, soit en compétition.
Est-ce que tu pratiques cette activité ?
Oui, je suis au club depuis 3 ans à Chamonix et avant j'étais au foyer de ski de fond à Chamonix pendant 5 ans, donc j'en fais depuis le CP. Ça fait 8 ans que je pratique le ski de fond et j'aime toujours autant en faire.
Quelle est la différence entre le foyer et le club ?
Le foyer c'est 3 ans à 10 ans, donc tu apprends les bases et tu fais quelques courses et après tu peux aller au club où tu travailles la technique et où tu peux faire tes courses toutes les semaines.
Pourquoi avoir choisi ce sport ?
Mes parents ont toujours voulu que je fasse du sport d'hiver, donc j'avais le choix entre ski alpin, ski de fond et snowboard. Mais mon frère faisait du ski alpin, donc je n'avais pas envie d'en faire. Le snowboard je ne connaissais pas, alors j'ai choisi le ski de fond.
Quelles sont les catégories dans ce sport ?
Les catégories sont U12 les 6e, U13 les 5e, U14 les 4e, U15 les 3e et ainsi de suite. Moi je suis U15.
Est-ce que tu as un pas préféré en ski de fond ?
Oui, en skate c'est le 1 temps où tu plantes les bâtons en même temps de poser un ski par terre et en classique c'est la poussée simultanée où tu pousses avec les bâtons simultanément en gardant les skis parallèles.
Est-ce qu'il y a un pas que tu as eu du mal à apprendre ?
Pour moi, tous les pas sont compliqués. C'est pourquoi toutes les semaines, les filles U15 et moi, on les travaille énormément pour mieux les maîtriser. Nous avons toutes les semaines de nouveaux conseils sur notre technique.
Y a-t-il des fausses idées qui circulent dans ce sport ?
Oui, beaucoup de gens pensent que le ski de fond n'est pas dangereux, mais je vous assure que ça peut l'être. Si tu tombes sur la neige glacée, tu peux te faire très mal, voire même te casser quelque chose. Quelqu'un peut te rentrer dedans, tu peux te faire planter un bâton sur le visage ou sur d'autres endroits du corps, donc ça c'est dangereux. C'est pourquoi il faut prendre ses précautions et faire attention aux autres. En fait, le ski de fond est un sport complet qui peut se pratiquer en famille, en solo ou en compétition. Ce n'est pas un sport onéreux, ce sport permet d'avoir une bonne endurance et se trouve souvent pas trop loin dans les villes de montagne.
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. Vous venez d'écouter la chronique de Jeanne et on se retrouve pour son interview.
Depuis combien de temps êtes-vous météorologue ?
Je suis météorologue, alors j'ai fini mes études en 1986, donc ça fait 37 ans.
Et quelle étude avez-vous faite ?
Donc j'ai fait des études de météorologie à l'École nationale de la météo qui se trouve à Toulouse. Donc j'ai d'abord fait bien sûr des études jusqu'au baccalauréat. Ensuite j'ai fait 2 années de classe préparatoire aux grandes écoles. J'ai passé plusieurs concours dont celui de la météo. Donc c'était la météorologie nationale, ça s'appelait à l'époque. Maintenant c'est Météo France. Et donc ensuite j'ai fait cette école.
Et est-ce que c'est dur d'avoir les formations ?
Ce qui peut être difficile, c'est de réussir le concours, parce qu'en fait, à l'école, le nombre de places est limité. Donc, ça va dépendre un petit peu des années. Il y a des années où il y a plus de places. Il peut y en avoir plusieurs dizaines. Et il y a d'autres années où c'est beaucoup plus faible, peut-être une dizaine de personnes seulement. Voilà. Après, une fois qu'on est rentré dans l'école, normalement, ça pose pas de problème. Si on a réussi à avoir le concours, après, on est à la portée des études qui durent 3 ans, donc, à cette école de la météorologie.
Depuis combien de temps vous voulez être météorologue ? Comment vous avez connu la météorologie ?
Disons que moi, je m'intéressais quand même déjà à ce qui se passe en l'air, dans le sens où j'étais astronome amateur, donc c'est pas les nuages, bien sûr. Je m'intéressais pas spécialement à la météo. Après, moi, j'ai passé plusieurs concours. Donc, il y a des concours que j'ai pas voulu passer parce que le sujet m'intéressait pas. J'en ai passé plusieurs, dont celui donc de l'école météo. Donc, j'étais aussi intéressé par le concours de l'Institut géographique national, mais c'était le même jour. Donc, il a fallu que je fasse un choix entre ça et la météo, et donc j'ai choisi la météo parce que bon, c'est quand même un sujet qui m'intéresse, bien sûr, mais d'autant plus maintenant.
Et du coup, météorologue, vous savez quand est-ce qu'il va neiger et combien de centimètres ?
Alors oui, bien sûr, on sait avec un, il y a toujours un niveau d'incertitude, hein, surtout si la prévision elle est lointaine, donc on est plus sûr de ce qui va tomber par exemple ce soir que ce qui va tomber dans une semaine. Dans une semaine, c'est beaucoup plus incertain sur est-ce qu'il va vraiment neiger ou pleuvoir, et puis en quelle quantité, bien sûr. Voilà. Après, donc, bien sûr, on arrive à le savoir grâce à ce qu'on appelle les modèles météo, qui sont des logiciels qui prévoient l'évolution de l'atmosphère dans les prochains jours.
Et est-ce que, puisqu'en ce moment, il y a le changement climatique, est-ce que le changement climatique a un effet sur vos recherches ?
Non, le changement climatique, il a pas d'influence sur notre travail en prévision, puisqu'en prévision, on travaille déjà à partir des données observées qui sont remesurées tous les jours, même toutes les heures, et ça se remet à jour en permanence. Et la prévision, elle est pas très lointaine, puisqu'on va on fait à peu près 10 jours d'échéance, ou éventuellement des fois un tout petit peu plus loin, on va dire 2 semaines d'échéance, donc c'est pas très loin. Le changement climatique, il est rapide à l'échelle du climat, mais à l'échelle météo, en fait, on le sent pas du tout, quoi. Et donc, comme je viens de le dire, donc les conditions météo sont réactualisées tous les jours. Donc, en fait, ça n'a pas d'influence sur le travail de prévision météo.
Et quelle est la température pour qu'il neige ?
La température pour qu'il neige. Alors, la température ne doit pas être trop chaude, bien sûr, puisque s'il fait trop chaud, la neige, elle va fondre, elle se transformer en pluie. Puisque en fait, quand il pleut, c'est toujours de la neige qui s'est formée dans le nuage et qui, en tombant, va fondre. Donc en été, comme il fait plus chaud, la neige se transforme en pluie à des altitudes très hautes, à 3000 ou 4000 mètres. Donc s'il fait plus chaud que plus 2, normalement, pratiquement tout le temps, ça va être de la pluie. Entre 0 et plus 2 degrés, ça va être de la neige un peu humide ou très humide, si on est plutôt à 2 degrés de température. Et puis, à température négative, s'il y a des précipitations, bien sûr, on va avoir de la neige. Donc, sachant que, bien sûr, on n'aura pas de neige à des températures extrêmement basses, c'est-à-dire qu'en dessous de moins 20 degrés, on n'aura pas de neige. Donc là, je parle parce que la neige, je pense, elle va pas se former dans le nuage à des températures aussi froides. Mais après, dans nos régions, quand on dit il fait trop froid, il peut pas neiger, en général, s'il fait très froid, c'est parce qu'il fait beau, en fait. En hiver, c'est pas ça qui empêche vraiment les chutes de neige de tomber.
On se retrouve juste après à Sky Full of Stars de Coldplay pour la suite de mon interview avec Gilles Bruno.
I don't care, go on and tear me apart.
nous revoilà pour la suite de l'interview. Est-ce que vous savez exactement comment se forme la neige ?
Alors oui, je sais comment ça se forme, bien sûr. Donc, pour former de la neige, donc il faut déjà un nuage, bien sûr. Donc, les nuages, ils sont composés soit de toutes petites gouttelettes d'eau en suspension dans l'air, soit des tout petits cristaux de glace à basse température. Donc, les nuages qui sont à très haute altitude, il n'y a que des cristaux de glace. Ceux-là, ils peuvent pas donner de précipitation, donc pas de neige. Les nuages qui sont trop bas en altitude, pareil, si les températures sont trop chaudes, donc on va pas pouvoir donner de neige, bien sûr. Et donc, les chutes de neige vont se former dans des parties de nuages où il y a un mélange entre des cristaux de glace et des gouttelettes d'eau. Alors, ça peut paraître un peu bizarre parce qu'en fait, on est à température négative. On est à peu près entre, en général, on va dire entre moins 5 et moins 15, moins 18 degrés. Et donc, c'est à des altitudes où on a des cristaux de glace, bien sûr, mais aussi de l'eau qui reste liquide à température négative, ce qui est un phénomène extrêmement courant dans l'atmosphère. Et dans ces régions nuageuses, en fait, les petites gouttelettes d'eau ont tendance à s'évaporer et les cristaux de glace qui sont minuscules, ils grossissent et quand ils sont suffisamment gros, ils vont tomber et à ce moment-là, il se met à neiger.
Et est-ce que le type de flocon, il change par rapport à la température
ou... Oui, alors faut différencier. Donc les flocons dans les chutes de neige, donc ceux qui tombent du ciel, d'après ce qu'on va avoir dans le manteau neigeux, parce qu'après la neige qui est dans le manteau neigeux, en quelques heures... En quelques jours ou en quelques semaines, elle va se transformer, elle va devenir très très différente. Mais en ce qui concerne les cristaux qui tombent du ciel, en effet, la forme, elle va être différente en fonction de à quelle température se forme le flocon de neige dans le nuage. Donc, il y a un petit peu trois gammes de températures. Donc, les cristaux les plus courants, c'est les cristaux en étoile, hein, des étoiles à six branches. Mais après, il y a d'autres types de cristaux comme des aiguilles, par exemple. Ou des plaquettes qui sont un petit peu moins courants, on va pouvoir trouver aussi dans les chutes de neige. Mais parfois, on a des cristaux qui sont un peu mixtes. Si le flocon dans le nuage, en fait, il a changé d'altitude, monté ou descendu, donc ça va modifier la température. Et du coup, il peut commencer à se former dans un type de cristal et après continuer dans un autre type.
Est-ce que vous savez quel type de flocon va tomber ?
On part du principe en général que c'est des étoiles, parce que dans 80% des cas, peut-être même plus, c'est des étoiles de neige qui tombent du ciel. Après, on a un petit peu d'autres types de neige. Donc, en fait, si le flocon de neige, il a subi un phénomène de givrage dans le nuage, il va se transformer dans ce qu'on appelle de la neige roulée, qui sont des petites billes blanches là qui tombent sous forme d'averse et qui rebondissent sur les anoraks. Bon, et ça, disons qu'on sait prévoir les situations météo qui sont favorables à faire de la neige roulée.
Il est 12h30 sur Globule Radio et maintenant Indigo Night.
Of life, and he cries, why? it feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, for there are so many.
Vous êtes toujours sur Globule Radio et tout de suite ma chronique.
Alors, de quoi vas-tu nous parler ?
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Spin Launch.
Le quoi ?
Le Spin Launch est un projet de la NASA qui vise à envoyer des satellites dans l'espace grâce à un bras qui tourne sur lui-même dans une chambre sous vide.
D'accord. Et tu peux nous donner plus de détails sur cette machine ?
Bien sûr. Alors, le Spin Launch est un lanceur suborbital, donc un lanceur qui est capable d'envoyer des objets juste au-dessus de la limite de Kármán, qui se trouve à 100 km de la surface de la Terre. Ce lanceur se trouve sur la base de Spaceport America au Nouveau-Mexique. Il permet de lancer des satellites de 200 kg en orbite autour de la Terre en utilisant la force centrifuge générée par le bras en rotation. Cette machine permettrait de réduire de 30% la consommation de carburant des satellites.
Et peux-tu nous dire comment marche cette machine ?
Pour commencer, cette machine est composée d'une chambre sous vide, ronde, d'un tube pointé vers le ciel et d'un bras en fibre de carbone. Dans la chambre, le bras en fibre de carbone atteint une vitesse de plus de 8000 km/h en tournant autour d'un axe de rotation actionné par un moteur électrique. Puis, quand le bras a atteint cette vitesse, le satellite est relâché avec un timing parfait, puis il part dans le tube. Enfin, il s'envole à environ 10 000 mètres d'altitude avant de devoir allumer ses propulseurs pour finir sa mise en orbite. Les premiers vols devraient être pour 2025.
Et toi, que penses-tu de ce projet ?
Je trouve que ce projet est une bonne chose pour la suite de la conquête spatiale. On pourrait imaginer des centrifugeuses toujours plus grandes, capables d'envoyer des objets toujours plus gros et toujours plus loin. Au niveau environnemental, je pense aussi que c'est une bonne chose, car cette machine a beau être polluante à construire, elle ne le sera jamais autant que les fusées qui décollent du sol grâce à des propulseurs. Enfin, sur le plan économique, cela est aussi beaucoup plus avantageux qu'un lancement de fusée, car celui-ci coûte entre 5 et 100 millions de dollars, selon l'objet envoyé, alors qu'un lancement avec le Spin Launch ne coûterait environ que 500 000 dollars. Les satellites n'ont pas non plus besoin de quantités de carburant énormes comme les fusées, car c'est la centrifugeuse qui leur donne l'énergie nécessaire. On pourrait donc imaginer une conquête de l'espace moins chère et plus écologique. N'est-ce pas génial ?
Oui.
Hey, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. On vient d'écouter la chronique de James et on trouve juste après la Terre ronde d'Orelsan pour son interview.
D'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois ce genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux. Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde quand l'attendre ici. Je suis pas feignant mais j'ai la flemme. Et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine.
veux profiter des gens que j'aime. Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Les rappeurs qu'un ils donnent les mêmes conseils que mes parents. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais surtout fais de l'argent. J'essaye de trouver l'équilibre. À quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre? En caleçon qui me sert de pyjama, au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas. Ce soir je ramènerai l'équipe en attendant merci d'appeler, mais s'il te plaît parle après le bip. Aujourd'hui je me sens bien, je voudrais pas tout gâcher, je vais tout remettre au lendemain. Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin. On verra bien si je me perds en chemin. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant. On s'épanouit dans la lumière du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. Au fond, je crois que la terre est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison.
Donc tout de suite, je vais vous présenter mon interview et la première question que j'ai posée à Luc Moreau, c'est comment s'étaient formées les poches d'eau sous le glacier de Tête Rousse ?
Alors d'abord, ce qui est important de dire, c'est que les poches d'eau sont rares. Et celle de Tête Rousse de 1892, qui a percé en 1892, dans la nuit du 11 au 12 juillet, à 1h30 du matin, c'était à l'époque un glacier inconnu. Il était même pas cartographié, il était même pas sur les cartes. Et quand la poche est sortie, ça a créé une coulée de boue, de la glace, de l'eau, de ce petit glacier de Tête Rousse, qui ne faisait qu'un kilomètre de longueur. Et toute l'eau a dévalé jusqu'à Saint-Gervais, il y a eu 175 victimes. On ne connaissait pas ce glacier, on a remonté la coulée de boue, Joseph Vallot, Mougin, les guides de Saint-Gervais, et on est arrivé devant un gros trou sur le glacier, et on s'est dit, mais tiens, cette eau, cette boue, elle venait d'un glacier. Et donc, il y a des glaciers à 3200 mètres d'altitude, le glacier de Tête Rousse, qui sont dangereux pour les populations tout en bas. Et donc, on a commencé à surveiller la haute montagne. À l'époque, on ne connaissait pas la haute montagne, très peu.
La catastrophe de 1892 a-t-elle des chances de se reproduire dans l'immédiat ou pour l'instant, il n'y a pas vraiment de risque?
Alors, suite à cette catastrophe, donc, les gens de l'époque, des eaux et forêts, la commune, ont percé deux galeries, mais surtout une galerie en 1904, sous le rocher du glacier de Tête Rousse pour essayer de vidanger l'eau comme une petite gouttière en fait. Et cette gouttière en 1904 a réussi à vider une crevasse remplie d'eau en 1930. Mais voilà, depuis cette époque, en fait, le glacier il a perdu énormément de glace, qui fait qu'aujourd'hui il reste plus que 70 mètres. Mais cette galerie qui a été creusée dans la roche sous le glacier, pour rendre l'eau au glacier de Bionasset qui est juste à côté, cette galerie, elle s'englace, parce qu'on est très haut, à 3200 mètres d'altitude. Donc pour laisser la galerie de vidange libre, pour, si jamais il y a une autre poche d'eau qui s'ouvre, enfin, ou qui se vidange, il faut casser la glace. et c'est nettoyé chaque année à 3200 mètres d'altitude. Ça coûte beaucoup d'argent. Il y a de l'hélicoptère, il y a un mois de travail, il faut enlever la glace, c'est du travail. Et donc, à un moment donné, comme le glacier avait beaucoup perdu d'épaisseur, dans les années 2008-2010, la commune de Saint-Gervais a demandé à mes collègues glaciologues de Grenoble, est-ce que c'est toujours utile de tailler la glace de cette galerie, puisque aujourd'hui, le glacier a beaucoup perdu d'épaisseur. Parce qu'à l'époque, en 1892, il était bien épais, donc en fait, il appuyait bien sur le rocher, pouvait avoir de l'eau qui s'était créée, voilà, et le plafond de glace diminuant avec la poche qui s'était créée au cours du temps, sur des dizaines d'années, on ne sait pas trop comment elle s'est faite, hein, cette poche de 1892, le plafond de glace s'est écroulé sur la poche, ça a mis l'eau en pression qui est sortie par le front du glacier. Et donc, on avait creusé cette galerie, et donc, en demandant au glaciologue de Grenoble, est-ce que cette galerie est toujours... faut toujours la maintenir en opérationnel. Mes collègues de Grenoble ont scanné le glacier en surface et on s'est aperçu que la galerie n'arrivait pas au fond, d'abord. Elle était à 20 mètres du fond, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les scans et les instruments d'aujourd'hui, en 1892. Et puis, en scannant le glacier, on s'est aperçu qu'il y avait une autre poche et que le glacier il tenait sur des pointements rocheux de relief, mais entre les reliefs, il y avait de l'eau. Donc, alerte à Saint-Gervais en 2010-2011 et on repompe l'eau, on reperce, on pompe. Et en fait, en perçant la poche en 2010-2012, on s'est aperçu que l'eau était sous pression. Elle est arrivée jusqu'en surface du glacier. Hein, bon, ça n'a pas fait le jet d'eau de Genève, hein, mais quand même. Et voilà, elle est arrivée jusqu'en surface. Et donc, ils ont pompé l'eau plusieurs étés de suite pour évacuer le danger. Et après, la cavité, comme la glace se déforme un peu comme de la pâte à modeler, la cavité qui avait été remplie d'eau s'est vidée parce qu'on a pompé l'eau et la cavité s'est refermée. Mais on surveille aujourd'hui, toujours. Donc non, il n'y a pas de risque. À l'époque, c'était quand même en 2010, 60 000 mètres cubes. En 1892, c'était 200 000 mètres cubes. C'était 100 000 mètres cubes d'eau et 100 000 mètres cubes de glace. En 2010, 60 000. Aujourd'hui, il reste 10 000, 12 000 d'eau, de mètres cubes d'eau. Bon, c'est... Puis il y a des mises en place d'alarmes, etc., etc. Mais bon, c'est pas... Et les poches sont vraiment, c'est la seule poche dans le monde qui a été vidangée, qui a été vidée. Aucune autre poche dans le monde, il y a eu des articles scientifiques là-dessus. Moi, je suis descendu dans la poche parce qu'ils ont creusé des trous de partout, parce qu'en pompant l'eau au centre, bah, il fallait qu'il y ait des aspirations d'air, donc il y avait des trous. On est descendu avec des copains guides dans le trou, dans la poche, pour voir un peu ce que c'était. C'était la seule poche d'eau dans le monde. Donc moi, comme je travaille sur ce qui se passe sous la glace et dans la glace, ça m'intéressait.
On se retrouve juste après Madame Nature d'Aldebert pour la suite de mon interview.
Sur le bord de ma fenêtre, accoudé à l'horizon, je regarde ma planète s'emmêler dans les saisons. Quel heureux arrangement, et Capharnaüm unique, réglé on ne sait comment, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais changer que vous soyez au moins une fois fiers de moi. Pour nos arbres et nos rivières, nos montagnes et nos banquises, si tu roules de nos tours de verre, arrêter les bêtises d'un même abracadabra. Retapons l'astre magique, réglé on ne sait pourquoi, comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, je vais
changer, que vous soyez au moins une fois fier de moi. Ras le pôle, nous dit-elle, Eden au bout du rouleau. A chasser le naturel, il ne revient pas au galop. Pour ce qu'il reste d'animaux, de solennel et de beau. Encore ce merle moqueur qui m'invite à lever tête. Délicir à la bonne heure nos portables et tablettes. Cette chanson fait le serment de veiller aux cailloux cosmiques. Régler, oui, mais jusqu'à quand? Comme du papier à musique. Comme du papier à musique. Si d'aventure je vous déçois, Madame Nature, comme il se doit, promis, juré de vous à moi, j'avais changé que vous soyez au moins une fois fière de moi.
Et tout de suite, on se retrouve pour la suite de mon interview.
Oui, 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 c'était une bonne question. Oui, les glaciers, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des cavités sous les glaciers quand on a commencé à creuser des captages hydroélectriques. Comme à Argentière, où je travaille, donc il y a le captage de la Société des Maussons, comme à la mer de glace, où il y a EDF qui capte l'eau. Mais c'est surtout Argentière, en fait, où sous une rupture de pente du glacier, on peut s'apercevoir que le glacier saute une bosse comme un skieur qui saute une bosse, quoi, en fait. Hein. Et donc, il y a des espaces entre la glace et le rocher, hein, et puis avec des galeries creusées dans la roche, eh bien, les cavités peuvent faire 3-4 mètres de haut, un peu comme dans cette salle. Et le glacier, il est au-dessus, et il glisse, il descend, et il retouche le rocher 5 mètres plus bas. Voilà. Donc, en fait, on s'est aperçu que les glaciers n'épousait pas tout le relief du lit rocheux partout, qu'il y avait des espaces où l'eau pouvait circuler. Alors les poches, c'est extrêmement rare, d'une part, et puis c'est surtout indétectable. C'est-à-dire que si on s'amuse à faire du radar sur les glaciers pour voir s'il y a des poches d'eau, de l'eau liquide à la place de l'eau solide, ben c'est pas facile, parce que la marge d'erreur de l'instrumentation et de l'interprétation des résultats, c'est la valeur d'une poche d'eau. Donc, c'est difficile à prévoir. Et puis, comme les glaciers évoluent tout le temps, ça fond toutes les semaines. Quand on a des canicules, c'est énorme. Hein. On peut avoir 10-15 cm de glace l'an dernier, en 2022, chaque jour, hein, qui fond. Donc, c'est la valeur sur un glacier qui fait 30 km carrés. Ça peut faire une grosse la valeur d'une poche d'eau. Hein. Donc, il faudrait faire du radar toutes les semaines, mais c'est pas possible. On n'a pas le temps, et puis ça coûterait trop d'argent, et puis techniquement c'est pas possible. Et donc mais c'est vrai que l'eau peut perturber. Alors moi je travaille surtout aussi sur le fait que l'eau, en fait, sous les glaciers, l'été, les glaciers glissent plus vite que l'hiver, parce que justement il y a de l'eau de fonte, un peu comme si on fartait un ski. Voilà, ça fait glisser le glacier plus vite, et donc ça perturbe le mouvement du glacier. Mais ça fait partie de la vie normale du glacier, la dynamique, comme on dit, du glacier. Donc, le glacier glisse sous l'effet de son poids, puis l'été, il glisse 20-30% plus vite que l'hiver, parce que l'hiver, bah, il se vide de son eau, c'est plus sec, le glacier épouse un peu mieux le relief, et ça va moins vite. Donc, l'eau est importante, hein, pour les glaciers, et parfois, ça crée des dangers, mais le glacier, c'est aussi un stock d'eau. Donc, ça nous donne de la rivière, ça nous donne de l'eau liquide, ça alimente les nappes phréatiques, et l'eau, on en a besoin, c'est le cycle de l'eau. L'eau qu'on boit, elle est passée dans les glaciers du Mont Blanc peut-être des milliers de fois depuis la nuit des temps. Et donc, l'eau sur Terre, c'est une ressource, c'est la vie, quoi.
Et ce glacier de Tétreau, c'est-il le seul glacier dans le monde avec des poches d'eau comme ça qui ont menacé vraiment les villages en dessous, ou il y en a d'autres dans le monde?
Bah, en fait, on sait pas s'il y en a d'autres, hein, mais en tout cas, c'est comme cette poche a fait beaucoup de victimes. Donc voilà, on a découvert que sous ce glacier, à 3000 mètres d'altitude, il y avait une poche d'eau. Il y a certainement des endroits où dans les creux, sous les glaciers, il y a de l'eau, mais au-dessus des villages. Mais en tout cas, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est comme c'est indétectable, on ne va pas s'amuser à radiographier tous les glaciers, on n'a pas le temps. Hein. D'ailleurs, en France, on mesure une dizaine de glaciers hein, sur sur oui, il y a beaucoup de glaciers en France. Hein. Il y a une centaine de glaciers en France. On n'en mesure que 10%. Hein. Donc, parce qu'on n'a pas le temps. On prend des échantillons différents de glaciers longs, des glaciers courts, qui prennent des sens très hauts, qui arrivent très bas, qui sont plats, avec des ruptures de pan, de face sud, de face nord, blanc, noir, voilà. Donc, on prend des différents types de glaciers. Mais aujourd'hui, on s'inquiète surtout du réchauffement climatique et des glaciers qui sont froids en altitude, comme ici, dans le massif du Mont-Blanc, où on a l'aiguille du Midi et des glaciers suspendus, voilà, qui sont collés à la roche, ça veut dire à température négative à la base. Quand c'est négatif, bah, c'est collé. Glacier froid, Mont-Blanc moins 15, ou dans la face nord des rues du Midi, il y a des gros glaciers suspendus. Hein, vous connaissez sûrement, quand on prend le téléphérique, hein, on passe devant des énormes masses de glace. Donc nous, on surveille ça parce que, comme ça se réchauffe, et on voit qu'il y a en dessous des cavités, il y a des courants d'air chaud qui arrivent à passer sûrement en dessous. Et quand ces blocs se détachent et disparaissent, parce que d'un seul coup, ça se réchauffe trop, ça arrive à 0 degré, et puis à un moment donné, bah, 0, bah, ça colle plus, la glace, donc ça glisse. Bien, si ces blocs tombent, bah, ça va libérer du rocher sombre qui va ne plus être protégé par la neige et la glace et qui va absorber l'énergie solaire. Et comme il y a une remontée mécanique, là, bah, ça peut devenir dangereux. Donc on essaye de mesurer, d'anticiper le danger. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut préserver au maximum les températures, donc limiter tout ce qu'on peut de gaz à effet de serre pour arriver à ne plus augmenter ces températures sur Terre. Parce que sinon, il va y avoir de plus en plus de risques et de dangers et de glaciers qui disparaissent, donc de rivières qui disparaissent. Donc nous, on s'est habitué depuis 100 ans, 200 ans à des rivières, des fleuves, mais il y a plein de petits glaciers qui disparaissent, donc plein d'eau qui disparaissent, sans parler de la sécheresse. Parce que plus ça chauffe, plus il y a de réchauffement, plus ça s'évapore. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre très efficace, donc plus ça fait... Voilà, donc c'est un cercle vicieux, en fait. Et donc, c'est la sécheresse, la chaleur fait assécher les sols deviennent secs, d'où les incendies, etc. Enfin, tout est engagé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille tous pour essayer de limiter ça, quoi. Donc, les gaz à effet de serre, les glaciers, c'est les gaz à effet de serre. On amplifie un effet de serre naturel. On a besoin de l'effet de serre pour vivre sur Terre. Sinon, il n'y aurait pas de liquide, hein. S'il n'y avait pas de vapeur d'eau, le ciel bleu, la vapeur d'eau, il ne ferait pas plus 15, mais moins 20, il n'y aurait pas de liquide. Donc, il n'y aurait pas de vie, on ne serait pas là. Mais, grâce à la vapeur d'eau, il y a de l'eau liquide, les mers, les océans, les rivières. Il faut que le glacier fonde, hein, pour donner de l'eau quand même. Hein. Mais pas trop, aujourd'hui, les glaciers disparaissent.
Hello, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM et vous venez d'écouter l'interview de James. On va maintenant passer à celle de Raphaël.
Vous parlez souvent d'un gros bloc de glace sur la face nord de l'aiguille du Midi. Est-ce que vous savez quand il va tomber ?
Alors, en fait, c'est oui, tout à fait. Hein. Ça, c'est un glacier suspendu qu'on voit très bien quand on prend le téléphérique de l'aiguille du Midi. Donc ça, ce sont des glaciers froids, voilà, qu'on surveille parce que, justement, il y a du réchauffement. Et quand le glacier est à température négative à la base, il est collé au rocher. On appelle ça des glaciers froids. Mont-Blanc, moins 15, dans les faces nord, voilà, ou au Groenland, bon, dans les zones polaires, hein. Groenland pour le sud, moins 50 degrés, les glaciers, ou dans les faces nord, dans nos montagnes, on a des glaciers froids au-dessus de 4000 ou dans ces parois face nord suspendues. Et donc là, on ne sait pas quand est-ce qu'il va tomber, mais justement, on surveille avec mon collègue, hein, Ludovic Ravanel, là, voilà, qui lui s'occupe aussi de pas mal de projets sur ces zones d'altitude, hein, et surtout le permafrost, hein, le pergélisol en français, donc toutes ces zones un peu froides qui dégèlent, hein, et la glace qui fond dans les fractures et les fissures du granit. Et donc tous ces glaciers froids qui sont aussi des glaciers qui ne sont pas là que pour le décor, mais aussi pour protéger. Hein. Ils sont là parce que les conditions font qu'ils existent. Hein. La neige a fabriqué de la glace froide. Et donc, il y a des thermomètres, hein, qui ont été placés dans le glacier, jusqu'à la base du glacier, là où le glacier touche le rocher. Et c'est très proche du zéro degré maintenant. Et donc, oui, en effet, on surveille ça, parce que si le glacier vient à tomber, eh bien, à ce moment-là, bah, ça peut dégager du rocher qui lui est plus sombre et va absorber l'énergie solaire, alors que la neige et la glace est blanche, hein, plutôt blanche, et donc ça renvoie et ça protège le rocher des températures, des hautes températures de l'été, des fortes températures. Et quand on a des remontées mécaniques, quand on a des couloirs d'avalanche, quand on a des refuges, quand on a des barrages hydroélectriques, ou des voies d'escalade, tout ça, toutes ces glaces qui sont au-dessus, on les surveille parce qu'il y a des populations en dessous, quoi. Et donc, non, en tout cas, on ne peut pas prévoir pour l'instant. On ne sait pas faire ça. On n'a pas assez de données, d'instrumentation. Et justement, là, on va peut-être y mettre une caméra supplémentaire sur ce glacier suspendu qu'on appelle le Mallory, parce que c'est la voie Mallory qui monte dans la face nord d'Aiguille.
Est-ce que vous avez une démarche pour essayer de ralentir sa chute ?
On est vraiment dans l'inconnu, là, très incertaine. Il peut lâcher des petits morceaux, il peut tomber en gros morceaux, on sait pas trop, ou il peut rester là encore très longtemps. Bon, voilà, tout va dépendre un petit peu des étés et des canicules qu'on va avoir dans les années prochaines. Mais la grosse solution à tout ça, en fait, c'est d'essayer de limiter nos gaz à effet de serre, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique et donc le réchauffement des glaciers froids de face nord. Voilà, et pour simplifier, de manière un peu globale, quoi. Parce que nos glaciers diminuent, ils sont de moins en moins jolis, mais surtout, il y a de moins en moins d'eau à fondre, de glace à fondre, en surface et en volume. Et donc, on sait très bien que dans une quinzaine d'années, il y aura moins d'eau dans les rivières, il y a plein de petits glaciers qui vont disparaître, et on a déjà des problèmes d'eau à droite à gauche, de sécheresse, depuis longtemps. Surtout cette année déjà, et l'an dernier encore plus, enfin déjà l'an dernier 2022, il a fait sec et une canicule, et là la mer de glace, on a eu des records de fonte incroyables, quoi. On a eu même plus 10 degrés au sommet du Mont Blanc le 18 juin 2022. Et donc, cette année, comme on n'a pas eu beaucoup de neige, heureusement depuis un mois et demi en mars-avril, on a quand même eu quelques chutes de neige, là on vient de mesurer la neige qui est tombée, là c'est en ce moment, À la fin de l'hiver, au début du printemps, on mesure la neige qui alimentait les glaciers et qui fabrique la glace de nos glaciers. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de neige et un été pas trop chaud, quoi, pour que au moins on garde la glace et qu'on préserve, voilà, au moins une partie des glaciers d'aujourd'hui qui vont continuer à diminuer parce que on va pas arrêter de chauffer nos maisons et d'arrêter de prendre notre voiture, quoi. Donc voilà. Donc tout ce qui est développement durable, énergie donc renouvelable, limiter la voiture solo, prendre les transports collectifs, voilà, tout ça, on se doit de le favoriser pour protéger l'air, l'eau, bien sûr, notre paysage, quoi. Et puis surtout, limiter les risques et les dangers, comme ces glaciers suspendus qui tombent. Ça fait partie de la dynamique d'un glacier suspendu que de lâcher des morceaux, parce qu'il y a toujours de la glace qui se fabrique par la neige. Mais voilà, on peut aussi... Il y a des glaciers qui peuvent s'effondrer, c'est vrai. Et là, c'est très difficile à simuler pour le futur. On ne sait pas quand.
L'année dernière, un glacier en Italie s'était écroulé presque dans la ville. Est-ce qu'il y a des chances que cela arrive ici, dans Chamonix ?
Voilà. Alors c'était pas dans la ville quand même, mais c'était sur le flanc de la montagne. Et puis ça avait tué, je sais plus combien, une dizaine de personnes, non, 10, 12, quelque chose comme ça. Et donc donc c'est une des conséquences du réchauffement. On peut pas tout surveiller, mais aujourd'hui, on faire attention quand on passe sous ces glaciers qui sont à 3000 mètres d'altitude, 3005. Et qui aussi se réchauffe, qui aussi récupère l'eau de fonte à l'intérieur, sous le glacier. J'avais bien vu sur les images. Bon, moi, je suis pas allé à l'endroit, mais sur ces images, on voit qu'il y a eu une crevasse en fait qui avait pas mal pris l'air chaud, qui avait pas mal fondu. Et puis la tranche de glace au fond de la crevasse qui avait donc séparé un morceau, voilà, qui était tombé en avalanche de glace et qui avait emporté pas mal de personnes sur la voie normale. Et donc ce glacier Marmolada, oui, en effet, il s'est rempli d'eau et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fonte des glaciers, ça peut générer des dangers comme celui-là. Par où passent ces itinéraires ? Des fois, il vaut mieux passer au-dessus du glacier, même si c'est plus difficile. Bon, ça serait plus facile. Mais donc il y a des grosses incertitudes de randonnée en montagne sous ces glaciers comme celui-là qui malheureusement a lâché des morceaux. Il y en aura de plus en plus.
On se retrouve juste après Waiting for Love de Avicii pour la suite de mon interview.
Life, there's no obstacle that can't be with something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come
tout de suite la suite de mon interview.
C'était pas dans la ville quand même, hein, mais c'était sur le flanc de la montagne. Hein. Et puis ça avait tué, je sais plus combien, une dizaine de personnes, hein, non, 10-12, quelque chose comme ça. Et donc c'est une des conséquences du réchauffement. On peut pas tout surveiller, mais aujourd'hui, sans faire attention quand on passe sous ces glaciers qui sont à 3000 mètres d'altitude, 3005. Et qui aussi se réchauffe, qui aussi récupère l'eau de fonte à l'intérieur, sous le glacier. On avait bien vu, j'avais bien vu sur les images. Bon, moi, je suis pas allé à l'endroit, hein, mais sur ces images, on voit qu'il y a eu une crevasse, en fait, qui avait pas mal pris l'air chaud, hein, qui avait pas mal fondu. Et puis, la tranche de glace au fond de la crevasse, qui avait donc séparé un morceau, voilà, qui était tombé en avalanche de glace, et qui avait emporté côté. Et donc, ce glacier Marmolada, oui, en effet, il s'est rempli d'eau et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la fonte des glaciers, ça peut générer des dangers comme celui-là. On se doit de regarder bien par où passent ces itinéraires. Des fois, il vaut mieux passer au-dessus du glacier. Hein, même. Donc, il y a des grosses incertitudes de randonnée en montagne sous ces glaciers qui, malheureusement, a lâché des morceaux. Il y en aura de plus en plus.
Est-ce qu'il y a des couloirs qui sont en danger et qui vont peut-être bientôt ne plus être disponibles?
Couloirs, oui. Alors, donc ça vient aussi de l'enneigement. Donc, on voit bien, par exemple, à l'Aiguille Verte, le Couturier devient de plus en plus rocheux aujourd'hui, hein. Donc, ça dépend un peu des hivers de l'enneigement de l'hiver. Mais bon, alors maintenant, je sais qu'il y a dans la vallée des gens qui pratiquent le ski, même s'il y a des petits bouts de roche à droite à gauche, hein, en freeride. Mais bon, ça devient de moins en moins enneigé, de moins en moins blanc, hein, même la haute montagne. Plus on a du rocher qui apparaît, et plus ça se réchauffe, hein, parce que ça absorbe un peu plus la chaleur, hein, quand c'est sombre. Et donc oui, il y a des couloirs qui vont devenir difficiles, hein, parce que l'isotherme 0 degré remontant, il y a de plus en plus de pluie à haute altitude que de neige. Et donc il y a des couloirs moins enneigés, donc moins de glace, de plus en plus de roches. Donc c'est vrai qu'il y a plein de couloirs dans le massif qui ont beaucoup perdu en épaisseur. Hein. Et non seulement les glaciers, mais aussi voilà la base des couloirs qui descend. Donc voilà, ça devient difficile. On peut pas citer tous les couloirs, mais bon, il y a plein de couloirs et de goulottes qui n'ont plus de glace aujourd'hui, plus trop de neige. Donc voilà, faut profiter des hivers bien enneigés si vous voulez aller faire des virages là-dedans.
La mer de glace, elles font beaucoup, surtout ces derniers étés. Est-ce qu'il y a des chances qu'ils disparaissent totalement bientôt ?
Alors, la mer de glace, c'est un glacier qui est bien mesuré depuis 50 ans par mes collègues de Grenoble. Comme un compte en banque, hein, les glaciers, nous, on les mesure comme un compte en banque, hein, c'est-à-dire les recettes, la neige qui tombe, qui fabrique la glace, et les dépenses, la fonte. Donc ce glacier, ça fait 50 ans qu'il est mesuré. Et on sait que si ça continue comme ça, la fonte, en fait, le glacier continue de diminuer. On espère que dans une cinquantaine d'années, moi je serai plus là, mais que dans une cinquantaine d'années, vu du montant vert, on voit encore de la glace. Et si ça continue comme ça, pour un réchauffement moyen des différents scénarios de réchauffement et de refroidissement, vous avez peut-être entendu parler de ça, hein, différents scénarios climatiques. Si on prend un réchauffement moyen, on sait que qu'en 2100, tout ce qui est en dessous de 3300, 3500 mètres d'altitude, ça va disparaître. Donc ça veut dire presque tout ce qui est sous aiguille du Midi Elbronner, quoi. Donc ça va revenir jusqu'à la moitié du glacier du Géant, hein, pour 2100, hein, donc. Donc 70-80 ans. Et ça va dépendre de ce qu'on va faire aussi, hein, si on limite les gaz à effet de serre, si on limite le réchauffement ou pas, ou si on l'augmente. Et donc ça peut aller plus vite ou moins vite. Donc en fait, la mer de glace, oui. Comme c'est le plus grand glacier français, il restera plus que de la glace au Mont Blanc, Bosson, mer de glace, aiguille du Midi, quoi, dans 100 ans. Donc c'est vrai que le paysage va changer, hein. Donc ça va devenir des montagnes comme dans le Massif central, les Vosges, dans les Pyrénées, dans 15 ans, il n'y a plus de glace. Il y aura toujours de la neige l'hiver, mais la glace qui est en dessous diminue l'été. Hein. La neige va très vite fondre. Alors, bien sûr, la ligne de neige, la limite plus neige va remonter. Donc il y aura de la neige l'hiver, mais moins et moins de glace.
Et on se retrouve pour la chronique d'Agathe. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un métier étonnant, les cristalliers. Ces amateurs d'aventure qui partent à la recherche des cristaux au plus profond de la montagne. Mais alors, qu'est-ce que c'est être cristallier ?
Un cristallier, comme son nom l'indique, est un chasseur de cristaux qui recherche les cristaux de roches en haute montagne. La recherche de cristaux est une forme d'alpinisme, mais les sorties sont souvent plus longues. L'activité se développe principalement vers la fin du XVIIIe siècle. Les premiers cristalliers sont surtout des guides, mais aussi des scientifiques et des explorateurs.
Agathe a rencontré pour vous Georges Morera, cristallier professionnel, qui a accepté de lui parler de ce métier. Il lui a d'abord expliqué qu'est-ce qu'un four à cristaux.
C'est une cavité tapissée de cristal de roche, souvent en haute montagne, dans les fissures de la montagne. On peut les repérer l'hiver, lorsque l'accès est impossible, mais aussi l'été. Le repérage se fait avec l'expérience et visuellement. On peut observer les faces avec des jumelles et trouver les filons de quartz qui contrastent avec le granit. Les cristaux se trouvent le plus souvent dans des zones de fissures, où le rocher s'effrite et où les chutes de pierres sont fréquentes.
Elle l'a ensuite interrogé sur l'accès à ses fours.
Il accède à ses fours à cristaux, entre juin et septembre, lorsque la glace a fondu et que l'entrée des cavités est dégagée. L'équipe est constituée de 1, 2 ou 3 cristalliers maximum, pas plus sinon c'est trop dangereux. L'accès se fait avec les méthodes d'alpinisme. Premièrement, en remontée mécanique, puis à pied sur le glacier. Ensuite, il faut grimper pour atteindre les fissures.
Est-ce qu'il t'a parlé de l'extraction des cristaux ? Comment les cristalliers récupèrent-ils ces petits joyaux ?
Bien sûr ! Il m'a dit que les cristaux étaient déterrés à l'aide de petits outils comme par exemple une petite cuillère, un petit râteau de plage en plastique, des aiguilles à tricoter. La plus utile est la tringle à cristaux. C'est une tige assez fine avec un crochet au bout. Ça sert à aller récupérer les cristaux au fond des fours quand les bras sont trop courts. Il utilise aussi de petites lampes à chaleur pour faire fondre les résidus de glace. Après leur extraction, les cristaux sont directement emballés soigneusement afin de ne pas les abîmer. On redescend seulement les cristaux intacts car le poids est une limite.
Ah bon ? Et pourquoi cela ?
Car ils sont redescendus dans leur sac à dos.
Ah d'accord. Et t'a-t-il expliqué ce qu'il fait ensuite ?
Il évalue principalement la valeur en fonction de la beauté, la qualité, la brillance, la pureté et la forme. Ensuite, ils sont soit gardés par le cristallet qu'il a découvert pour sa collection, soit vendus en privé à des musées, des organisations, soit vendus au public ou pour la famille, les amis ou sur les bourses aux cristaux. Ils peuvent aussi être échangés entre collectionneurs.
Conclusion, les cristalliers sont des aventuriers?
Une vraie conclusion. Pour résumer, l'activité de cristallier est complexe et nécessite beaucoup d'apprentissage. Personnellement, je trouve que c'est un très beau métier qui mériterait plus de visibilité.
Voilà, c'est tout pour ta chronique.
Vous venez d'écouter ma chronique, et pour approfondir le sujet, je vous propose d'écouter mon interview qui traite du même sujet. A tout de suite.
Qu'est-ce que c'est que les cristaux? Alors moi, je vais te répondre par une autre question. Qu'est-ce que c'est qu'une roche? Je vais te le dire, une roche, c'est un assemblage de cristaux. Et un cristal, qu'est-ce que c'est?
À toi.
Je sais pas ce que c'est, moi, un cristal.
Un cristal, c'est tout d'abord une forme géométrique. D'accord? Si tous ces cristaux ont une forme géométrique, c'est dû à l'agencement des atomes dans la matière. Et l'agencement des atomes dans un cristal, il est géométrique. Et c'est cette géométrie que tu vas retrouver à l'œil nu à la fin.
Maintenant, j'aimerais savoir comment ils se forment, parce que c'est quand même extraordinaire.
Alors, les cristaux, bien sûr, il y a plein de modes différents de croissance pour les cristaux. Si tu veux, on peut parler de la croissance des cristaux de quartz dans le Mont Blanc. Donc, ces cristaux de quartz, il faut s'imaginer que donc les cristalliers qui vont là-haut dans la montagne pour les chercher, ces cristaux, ça fait très longtemps qu'ils ne poussent plus, qu'ils ne grandissent plus. Ils sont morts, ils ne grandiront plus jamais. Les cristaux, ça pousse entre 10 et 15 kilomètres de profondeur dans la croûte terrestre. À ces profondeurs, il se passe plein de choses, d'accord, puisque la croûte terrestre bouge. Et tout ça, ça crée des failles. Dans ces failles, il va y avoir de l'eau qui va arriver. Cette eau, elle est chargée en éléments minéraux, notamment du silicium. Et ce silicium, eh ben, il va venir se déposer sur les parois des failles et faire grandir les cristaux de quartz.
Pourquoi les cristaux, ils ont une couleur si particulière?
Alors, la couleur des cristaux est due à plein de choses différentes. On parlait du quartz à l'instant. Si le quartz est fumé, on appelle le quartz fumé ce quartz qui a une couleur un peu grise, voire jusqu'à marron, une couleur cognac aussi. S'il est fumé, ce quartz, c'est parce qu'il y a de la radioactivité dans le granit autour, et c'est cette radioactivité qui va donner cette couleur au quartz. Mais vous avez par exemple aussi du rouge ou du bleu. Le rouge, ça sera des inclusions physiques d'hématite qui vont donner ce rouge au quartz. Il y a beaucoup, beaucoup de modes différents.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les types de cristaux dans la vallée?
Alors, sur les types de cristaux, alors on a une minéralogie alpine qui est très très riche, d'accord, mais qui est souvent très petite. Donc les cristaux les plus recherchés et ceux qu'on trouve le plus dans le massif, ce sont évidemment les cristaux de quartz, mais il y a aussi ceux de la fluorite rose et rouge, qui elle est extrêmement rare et recherchée partout dans le monde entier, et ce sont, on va dire, les deux espèces principales du massif.
On peut les trouver où ces cristaux dans la vallée?
Alors ça c'est secret, hein. C'est comme les champignons, on donne pas les coins. Hein. Alors bien évidemment, il faut monter en haute montagne, d'accord? Pour la bonne et simple raison qu'en haute montagne, il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de couvert végétal, donc on peut trouver plus facilement des indices pour trouver ce genre de minéraux.
Et pour finir, pensez-vous que le métier de cristallier risque de disparaître? Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Alors c'est une très très bonne question, c'est vraiment une très très bonne question. Les cristalliers, ils ont des règles à respecter. Ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent. Notamment, ils n'ont pas le droit d'utiliser de moyens lourds, c'est-à-dire pas de marteau-piqueur, pas de dynamite. Ils n'ont pas le droit d'utiliser d'hélicoptère pour monter ou descendre dans la montagne. Ils ont des choses à respecter. Tout ça, bien évidemment, dans le but de préserver l'environnement. Sauf que, de temps en temps, vous savez, dans votre classe, il y a toujours celui qui embête un peu tout le monde. Hein, le cancre, celui qui est près du radiateur, tout au fond. Bon, bah dans tous les groupes, il y a le cancre. Donc si le cancre, il fait n'importe quoi, bah effectivement, il se pourrait que toute la classe soit punie. Donc on surveille le cancre. Voilà.
Merci d'avoir écouté notre émission.
Et merci à Heidenburg de nous avoir prêté les licences audio. Et tout de suite, la musique.